sur le plan personnel, j'ai toujours eu envie de diriger une entreprise et d'être le capitaine de mon bateau, oui, complètement. Je me suis associé avec un ami et nous avons créé Store FH en 98. J'étais dans le métier depuis déjà 10 ans en tant que commercial, donc je connaissais bien les produits, bien le métier, donc tout ce qui est store extérieur, store intérieur. Ça me paraissait être un domaine qui était vecteur de marché, qui développait, que c'était à la mode et que c'était très, très en vogue à l'époque. J'étais vraiment optimiste dans la création de mon entreprise. On était en 98, dans une période juste à l'aube des années 2000, dans des périodes fastes, des périodes où tout allait bien, où on était vraiment... On était vraiment sur un marché porteur.
C'était un projet qu'on avait ensemble. Et donc, de toute façon, je l'ai toujours accompagné, suivi dans ses projets. Donc, oui, c'est, de toute façon, dans sa vie professionnelle, ça ne pouvait être, je veux dire, qu'un cursus normal, quoi. Au moment où moi, j'ai donc intégré l'entreprise, j'ai commencé à faire quelques travaux administratifs. Et petit à petit, j'ai vraiment secondé mon mari dans la recherche donc, des fabricants, des fournisseurs, dans tout ce qui était comptabilité également. Je me suis occupée de toute la comptabilité de l'entreprise et la gestion commerciale.
Ça ne m'a jamais traversé l'esprit de faire faillite un jour. Parce que j'avais confiance en moi, j'avais confiance dans l'avenir, j'avais confiance dans ce que je faisais, une confiance totale. Et c'est vrai que quand on se lance, quand on démarre, la seule chose à laquelle on ne pense pas, c'est faire faillite.
Histoire de faillite, un documentaire d'Arthur Delaborde-Noguez.
Donc j'ai senti très rapidement les soucis financiers dans la mesure où je m'occupais de la comptabilité et qu'avec la création donc du nouveau magasin, je me suis vite rendu compte effectivement que ça allait être difficile de subvenir faire face à toutes les créances. Et en même temps, on espère toujours que la situation va s'améliorer. Et c'est vrai que les problèmes sont survenus avec la création du deuxième magasin. Et on a toujours eu l'espoir de voir ce magasin vraiment se développer et prendre de l'ampleur, ce qui n'a pas été le cas.
Les problèmes financiers ont commencé précisément lorsque l'entreprise a changé de taille, lorsqu'elle est devenue plus importante, avec des salariés, beaucoup plus de salariés. Avec une dimension différente, avec une multiplication des points de vente, donc là, les problèmes ont commencé à survenir et à surgir, et notamment les problèmes liés à la crise qui est arrivée en 2008-2009. Moi, je ne l'ai pas compris parce que j'étais toujours le nez dans le guidon et toujours... Je sentais bien qu'il y a un moment il fallait faire quelque chose, mais c'est surtout notamment mon expert comptable et d'autres gens qui m'ont vraiment dit à un moment il va falloir arrêter parce qu'on ne peut pas continuer comme ça et parce que les choses vont mal et qu'il faut arrêter maintenant. La période de flou a été quand même. Cette période a duré quand même une bonne année puisque l'entreprise a été mise en redressement, donc pendant 6 mois. La faillite a été déclarée par le tribunal, mais il y a eu bien une bonne année de flottement et de difficultés.
Le plus dur à vivre quand on est dans l'entreprise, c'est effectivement les relances, toutes les relances de fournisseurs, de fabricants, que vous pouvez recevoir, donc plus ou moins diplomates au départ, un petit peu moins après, les huissiers qui viennent. Ça, c'est vraiment le plus dur, le défilé des huissiers qui veulent essayer de récupérer de l'argent. Chacun prêche pour sa paroisse. C'est que vous soyez en difficulté ou pas en difficulté. Ben, après, je les comprends. Hein, je veux dire, c'est normal. Hein, mais dialogue difficile avec les huissiers. Hein. Certains sympas, plus faciles, d'autres un peu moins faciles.
Ça commence par la banque. Donc les banquiers appellent parce que j'avais deux banques. Les banquiers appellent, disent bah voilà, vous dépassez l'encours, qu'est-ce qu'on fait? Donc au début ça va bien, on essaie de trouver des solutions. Mais après quand ça s'accumule parce que c'est comme une boule de neige, hein, ça grossit. C'est là que ça pose problème. Les huissiers arrivent, vous ne pouvez plus payer. Il faut sauver, absolument payer les salaires, payer les fournisseurs. Après, les fournisseurs ont moyennement confiance quand les banquiers ne payent pas les traites, ou plus du tout confiance. Donc là, ça engendre, il faut payer d'avance les fournisseurs pour qu'ils vous livrent. Donc vous avez des marchés que vous avez signés il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, que vous avez du mal à honorer parce qu'il faut avancer l'argent aux fournisseurs pour être livré. Il faut payer les salaires, donc tout ça se fait boule de neige et c'est pas simple à gérer.
Strasbourg le 30 mars 2011. Madame, Monsieur, sauf erreur ou omission de notre part, nous constatons que votre compte présente un débit de 931,99 €. Il s'agit probablement d'un simple oubli que vous ne manquerez pas de régulariser. Pour faciliter votre paiement, nous vous proposons le prélèvement automatique de cette somme sur votre compte bancaire ou postal à la date de votre choix. Si toutefois vous avez effectué ce paiement récemment, nous vous prions de ne pas tenir compte de cette relance. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information. Bien cordialement, Électricité de Strasbourg.
Strasbourg, le 2 juillet 2010. Monsieur, dans l'affaire référencée en marge, je constate que vous n'avez jugé utile de donner suite à ma dernière lettre de rappel. Je vous invite donc à régulariser la situation en me versant l'arriéré par retour de courrier. Faute par vous de ce faire, je serai dans l'obligation de reprendre l'exécution forcée à votre encontre, ce qui occasionnera des frais supplémentaires à votre charge. Dernier avis. Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées. Gilbert Wilk, huissier de justice.
Forcément, ça a des répercussions sur le quotidien puisqu'on vit ensemble, on travaillait dans la même entreprise. Donc le seul sujet de discussion, bien sûr, c'était les affaires, les chiffres, etc., la santé de l'entreprise. Moi, de mon côté, j'ai un moral, je suis très, très optimiste. Donc, je me dis toujours, les choses vont s'arranger, ça va aller mieux. Mon mari est un bosseur, moi de même, donc c'est vrai que... Mais bon, quelque part, effectivement, ça se ressent sur le quotidien, dans les soucis quoi, hein, de tous les jours. Dans notre couple, non, puisqu'on est toujours ensemble, donc tout va bien.
On ne pense qu'à son entreprise, on ne pense qu'à ça, on ne pense même plus à soi, même plus à, moins aux gens qui vous entourent, moins à votre famille. Vous êtes toujours le nez dans le guidon, vouloir sauver votre entreprise, c'est une obsession de tous les jours et on a moins de recul, on a moins de... On n'a pas le recul nécessaire, pour faire, à mon sens, pour faire bien les choses. Après, quand on y réfléchit, on a ce recul nécessaire pour dire, eh ben voilà, là, c'est peut-être pas comme ça qu'il aurait fallu faire, il aurait peut-être fallu faire autrement. Mais quand on est né dans le guidon, quand on est à fond dedans, on est tous les jours de 7h du matin à 7h le soir dans son entreprise pour la sauver, pour faire que ça aille mieux, c'est difficile de prendre ce recul-là.
Nous avons... une baisse du pouvoir d'achat, on a dû effectivement revoir un petit peu notre copie sur nos dépenses à nous. Forcément, vous réduisez beaucoup de choses de votre côté pour essayer de, en personnel, pour essayer de sauver au maximum le professionnel. Et après, rapidement, moi, j'ai essayé de trouver un autre emploi de façon à ce que, il n'y ait plus les mêmes œufs dans le même panier, quoi.
Le 24 mai 2011, Monsieur. Je vous informe que par jugement en date du 16 mai 2011, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Store FH et désigné le sous-signé aux fonctions de liquidateur. En cette qualité, je vous indique que je n'entends pas poursuivre le bail commercial signé entre les parties concernant des locaux situés 31 route de la Vanceneau à Hohenheim. Je procéderai à la restitution des locaux à l'issue de la vente du matériel d'exploitation s'y trouvant. Je vous souhaite bonne réception de la présente. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Gérard Claus, mandataire judiciaire.
C'est comme si... Alors c'est paradoxal parce que c'est comme si... si la terre se dérobe sous vous et en même temps c'est comme si c'était un poids immense en moins. Donc c'est très très paradoxal comme sensation. L'entreprise que j'ai créée, c'est mon bébé, donc c'est la mort, c'est fini. C'est très dur, c'est très dur à encaisser. Quand toute la pression est accumulée au fil du temps, la pression, les banquiers, les huissiers, les fournisseurs, quand tout ça, du jour au lendemain, ça s'arrête, alors on a l'impression que la terre s'arrête de tourner, mais d'un autre côté, on se dit, c'est fini, Alors, évidemment, ce n'est pas complètement fini, pas totalement, mais dans l'instant, c'est fini. Il n'y a plus de lettres d'huissier, il n'y a plus de créanciers qui viennent taper à la porte et vous harceler, quoi.
Et alors, qu'est-ce qu'on se dit ? On dit, ben voilà, c'est fini, terminé, la page est tournée, on passe à autre chose. On prend quand même ça comme un échec. Bah, comment expliquer ? Bah, c'est comme dans un couple, je veux dire, on fonde tout sur quelque chose, et puis quand ça se casse la figure, forcément, on a quand même un sentiment d'échec, parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est la conjoncture ? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait ? Où est-ce que j'ai péché ? Où est-ce que j'ai... Donc, je pense que quelque part, on le subit, enfin, on le prend vraiment comme un échec. Hein.
Le regard change, oui, c'est indéniable. Le regard des gens change. Du jour au lendemain, vous êtes plus rien. C'est indéniable. Surtout que j'avais fait pas mal de choses pendant tout ce temps. En étant, j'avais pris la présidence d'un club de foot. J'avais été présent dans différentes choses. J'avais été auprès de mes fournisseurs assez présent également. Donc, c'est vrai que le regard change. C'est indéniable.
J'ai pas l'impression que les regards ont changé autour de nous. Pas du tout. Non, pas du tout. Du tout les regards. Enfin, pas pour moi en tout cas. Mon ami, je pense pas non plus. Peut-être avec des personnes plus éloignées, mais pas pour les proches en tout cas.
Ah oui, oui. Donc oui. C'est sûr que dans mon cercle d'amis privés, où j'ai des amis chefs d'entreprise, donc où on se connaît très bien tous, où on se fréquente régulièrement, c'est sûr que c'est différent, les rapports changent, indéniablement, les rapports changent, c'est plus tout à fait la même chose. Ce qui change, c'est un peu, c'est qu'on a l'habitude de travailler ensemble avec des amis qui sont tous chefs d'entreprise, qui sont dans le bâtiment, donc on s'échange des adresses, on s'échangeait des tuyaux, on s'échangeait ce genre de choses. On mange toujours d'ailleurs tous les vendredis ensemble, mais du jour au lendemain, c'est fini, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de je te fais un chantier, je te fais des stores pour ça, ou c'est terminé, donc tout s'arrête, quoi, tout s'arrête. Et socialement, votre vie sociale est déstabilisée. Le statut du chef d'entreprise, du dirigeant d'entreprise, du dirigeant de club de foot, du dirigeant, du jour au lendemain, il n'y en a plus. C'est aussi, quand on est président d'un club de foot, comme en plus à Vendenheim, hein, qui est un club de foot important, quand du jour au lendemain, votre entreprise... Si vous êtes président, c'est parce qu'on vous êtes Olivier Efter, président du football club de Vendenheim et dirigeant d'une société Store FH. Donc tout le monde vous connaît, vous faites des affaires avec les gens, avec les dirigeants. Du jour au lendemain, tout ça s'arrête. Il faut prendre sur soi, ravaler un peu sa fierté et prendre sur soi. C'est sûr que ça n'a pas été simple.
Moi, j'ai moins de ressentiment par rapport aux gens qui ont pu entourer à un moment donné mon ami et qui l'ont laissé tomber au moment où ça a été difficile. Dans le professionnel, hein, je ne parle pas dans le privé. Moi, j'ai pas de ressentiment par rapport à ça. C'est vrai que j'ai pris vraiment beaucoup de recul. Mais est-ce qu'après, j'ai pas fait exprès de prendre du recul pour ne pas justement subir trop la pression ? Certainement, peut-être inconsciemment. Voilà.
Oui, j'ai commis des erreurs, c'est certain. C'est certain. Dans tous les domaines, oui. Oui, peut-être dans la gestion, dans le... Alors après, quand tout va bien, c'est toujours difficile de prendre du recul. Ça allait bien, on était bien en place, des bons bilans, les banquiers font confiance, on y va. Donc on est dans l'euphorie, quoi. On est dans le truc. Avec le recul, on se dit, ça, j'aurais peut-être pas dû faire, ça, j'aurais pas dû faire, ça, j'aurais dû faire autrement. À tous les niveaux. Tant au niveau de la gestion humaine que de la gestion commerciale, que de la gestion de l'entreprise en elle-même. J'ai fait des erreurs, mais c'est certain.
Alors, les conséquences les plus marquantes, c'est sûr, la première des choses, c'est la baisse de votre train de vie. Voilà, quand vous avez l'habitude d'avoir un certain train de vie, et puis voilà, il faut revenir un peu en arrière. Voilà, c'est juste ça. C'est la seule chose aujourd'hui que je ressens comme conséquence. C'est le train de vie qui a diminué. Mais à part ça, je veux dire, il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Et peut-être 12 kilos en plus. Mais sinon, c'est tout. On n'a pas eu de problème de santé. Les enfants vont très bien. Voilà, au quotidien, on s'entend très bien. Il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est vraiment la baisse du niveau de vie, de qualité de vie, quoi. Mais voilà.
Alors, en résumant, simplement, faire faillite, c'est... Alors, c'est extrêmement dur pour la personne. Humainement, c'est difficile, c'est pas simple. Maintenant, après, le temps efface les choses. Et puis après, il faut surtout rebondir. Pas regarder derrière, mais regarder devant. Et c'est là qu'on trouve les ressources nécessaires pour aller de l'avant. Et se faire aider de sa famille, évidemment.
Alors, ce que c'est que de faire faillite, une expérience dans la vie, voilà, qui en tout cas pour moi permet d'avancer, pas de reculer. Moi, je me dis simplement, voilà, c'est une expérience que la vie, voilà, c'est une aventure, une nouvelle aventure dans la vie, et voilà, la vie continue pour autant. Hein. Sinon, vous laissez aller et tout part, et votre vie de couple, et vos enfants, et la maison. Et tout ce que vous avez créé à côté, le travail c'est une chose, créer son entreprise c'est une chose, mais ça reste un travail, ça reste un emploi. À partir du moment où on est bosseur dans la vie, qu'on travaille, voilà, bah on retombe sur ses pattes. Hein, ouais. Pour moi c'est une expérience dans la vie, et voilà, ça vous met un coup sur le moment, mais après vous dites, il y a des choses, vous savez, quand on regarde tout ce qui se passe autour, il y a des gens dans la rue, on n'est pas dans la rue, on a à manger tous les jours, alors c'est vrai que des fois on a des fins de mois difficiles, on a, voilà, il y a plein de choses qu'on fait plus, mais c'est pas grave, je veux dire, on avait à un moment donné une grande voiture, aujourd'hui on a une petite voiture, voilà, je veux dire, mais ça reste du matériel, voilà, nous ne sommes pas tombés malades, mon mari est toujours là, moi je suis toujours là, et puis la vie continue, quoi. Qu'est-ce que, voilà, ou alors on se laisse aller, puis... on déprime, on suicide, ou ben c'est pas mon tempérament, non, c'est pas mon tempérament.
J'ai décidé de recréer une entreprise parce que j'aime ça, parce que j'ai c'est comme ça, c'est dans mes gènes, et que mais il est évident que je ne ferai plus les mêmes erreurs, et puis que je m'entoure de garde-fous qui sont différents et qui sont bien plus efficaces et bien plus ordonnés et construits que la première fois où j'ai créé mon entreprise. Et puis je me dis que je vais me nourrir des erreurs passées pour faire mieux cette fois-ci.